Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du podcast de Hockey sur demande, édition du 5 novembre 2023. Le temps de le dire et on va être Noël.
Mais bon, ça va vite.
Toujours en compagnie de Stéphane Grenier. Hey Stéphane, comment ça va?
Salut Max, comment ça va mon chum?
Yes, ça va très bien. Écoute, programme pour cette semaine. Encore une fois, les coups de cœur et les coups de pied comme d'habitude. On va revenir sur la semaine du Canadien. Faut parler des Sharks, on n'a pas le choix. Sérieusement, cette situation-là. C'est assez ridicule, mais on va revenir dans quelques instants. On parlait des Devils aussi parce que ça allait bien, mais là, il y a des blessures qui commencent à arriver de plus en plus. Puis je regardais le line-up aujourd'hui là, pour le match contre les Blackhawks et c'est là que ça m'a frappé pas mal au visage. J'espère que Savanti va être là ce soir, on va pouvoir en discuter avec lui, étant donné que c'est un fan là, des Devils, évidemment. On va parler également, je sais que c'était pas écrit sur la liste là, des sujets là, dans les pauses que j'ai fait parce que j'y ai pensé par après, mais il faudrait peut-être parler aussi du congédiement à Ottawa. C'est quand même le gros sujet là, dans la dernière semaine, là, alors que Pierre Dorion là, s'est fait pointer la porte de sortie. Et bon, là, peut-être que DJ Smith, ça va être le prochain là, à suivre éventuellement si les Sens ne se replacent pas. Sinon, on va également discuter de quelques sujets en rafale et on va closer ça avec le segment sur réception. Si Steph a toutes ses questions, sinon c'est pas plus grave. T'as sûrement des what the fuck, des trucs comme ça, anyway. Pour
on va s'organiser,
Yes. Donc, Steph, ton coup de cœur de la dernière semaine?
Écoute, moi, ça va être Tyler Toffoli, mon coup de cœur de la dernière semaine. Mais je m'explique, c'est 11 points en 10 rencontres, un diminutif de moins 5. Mais c'est un renouveau du côté des Devils, de ce côté-là. On va voir comment ça va aller. On en a parlé, hein, tu sais que les Devils ont des grosses blessures. On ne sait pas si la profondeur va tenir. On va en parler tantôt. Mais tout un début de saison, je pense, pour l'attaquant des Devils, l'ancien du Canadien, évidemment, qui a joué en 2020, 2021, 2022 avec le Canadien. Donc, écoute, moi, c'était mon petit coup de cœur. Je l'ai regardé 2-3 fois cette semaine. Et j'ai bien aimé ce qu'il nous apporte. Là. Quand même pas plus gros qu'avant, pas même plus rapide qu'avant, mais il se place bien, c'est un joueur intelligent. Fait que pour mon chum 70, ça va être un gars de Devils cette semaine, mon coup de cœur.
Ouais, puis tu sais, c'est pas le gars qui a le lancé le plus foudroyant, mais il est capable de la placer tout le temps à bonne place pour marquer ses buts. Donc, c'est un bon coup de cœur. Moi, ben écoute, je vais aller avec le Canadien parce qu'il était temps, là, mais enfin, il y aura Slavkovski qui marque son premier but. Puis tu sais, la raison pour laquelle c'est mon coup de cœur, c'est parce que j'ose pas imaginer à quel point ce but-là va faire du bien. Que la pression. Parce que, tu sais, ça a beaucoup. Je sais qu'il ne doit pas lire les réseaux sociaux tant que ça, mais quand même, ça a circulé sur les réseaux sociaux toute la semaine, là, son dossier. Et bon, est-ce qu'on l'envoie à Laval? Est-ce que c'est un flop? Est-ce que c'est ci, puis ça? Puis, tu sais, le gars, il essaye, mais ça fonctionne juste pas. Puis là, je suis content que Martin Saint-Louis l'a placé avec Cole Caulfield et Nick Suzuki. On l'a enlevé du trio d'Anderson parce que. C'est plate à dire, mais Josh Anderson, là, il éteint pas mal tout le temps les gars avec qui il joue là, sur ses trios. Là, rien qui marche. Aussitôt qu'il se retrouve sur un trio, tu sais, quand il a joué avec Caulfield et Suzuki, ben, le trio ne marchait pas. Là, on le met avec Slavkovski et Newhook, ça ne marche pas non plus. Et là, tout à coup, on met Slavkovski avec Suzuki et Caulfield. Tu sais, je sais que c'est en avantage numérique qui a marqué son but, mais quand même, quand il joue avec Caulfield et Suzuki, c'est... sans dire que c'était son meilleur match de la saison, mais tu sais, on voyait qu'il y avait plus de flash que quand il jouait là, avec Anderson. Et Newhook, donc content pour lui qui a réussi à marquer ce fameux premier but-là. Puis on va espérer que c'est le coup de pied dans le derrière qu'il avait besoin pour se relancer pour le reste de la saison. Parce que souvent, quand tu cherches ton premier but, tu joues avec le bâton plus serré, tu essaies de trop en faire, tu veux vraiment essayer de tout faire pour briser la glace, mais ça fait souvent l'effet contraire. Mais là, enfin, il a réussi à briser cette barrière-là. Donc, voyons voir ce que ça va donner pour la suite des choses. Là.
D'accord avec toi. Puis écoute, on a laissé quand même une bonne chance, une audition sur le premier trio avec la blessure. Évidemment, de Dak et le retour, ben, la blessure de Harvey Pinard aussi, le retour de Dvorak. On a placé ce troisième trio du Canadien au centre. Mais écoute, quand même bien joué. On voit que c'est rapide pour lui, mais je pense qu'on va de l'avant de ce côté-là. Et je suis content de voir, moi, du côté qu'on essaie, on essaie de des choses différentes du côté de Martin Saint-Louis, puis on veut lui donner un petit peu de chance. Donc, oui, il était crisquant derrière sa main. J'ai mis aussi la passe du capitaine qui s'est levé dans la chambre pour dire hey, je sais pas ce qui se passe, c'est l'aller, c'est un joueur de 19 ans. Mais j'aimais ce que j'ai vu quand même de Slavkovski au dernier match.
Et d'ailleurs, Savanti qui est arrivé dans le chat. Donc, Savanti, je ne sais pas si tu viens d'arriver, mais on va parler des blessures chez les Devils parce que là, je regardais le line-up aujourd'hui puis j'étais un petit peu inquiet pour les Devils et leur profondeur, mais on va se garder ça pour dans quelques minutes. Ton coup de pied maintenant de la dernière semaine?
Écoute, mon coup de pied, ça allait attaquer aujourd'hui. J'en avais un autre pour cette semaine, mais je ne peux pas choisir de passer à côté de ça. Un autre scandale sexuel du côté des Blackhawks de Chicago. Donc, ça a sorti un autre dossier criminel qui a été lancé.
Ben, je pense que c'est le même que dans le passé, mais là, il a décidé d'aller de l'avant avec, avec des poursuites.
Écoute, ce que moi j'ai lu, non, c'est ça. Ce que j'ai lu de mon côté, en tout cas, dans les trois médias que j'ai regardés, c'est que ça serait un nouveau. Donc, je vais tenir ça de côté de mon côté. Mais oui, Kyle Beach, on a parlé. Là, maintenant, ça serait une autre personne qui s'est ouverte pour un autre scandale. Donc, je vais tenir ça proche. Mais si c'est passé ce matin, là, ça fait peut-être un 7-8 heures. Donc, comme je vous dis, c'est mon coup de pied rapide. J'ai pas beaucoup d'informations, mais encore une fois, je pense que c'est pas super bien ce qui se passe présentement. Et quand on regarde ce qui se passe avec les autres équipes puis qui ont 41 matchs de suspension pour avoir bêté dans la NFL à la place de la NH puis qu'on donne rien au Blackhawks, je pense que ça s'en vient lourd, ce dossier-là. Et je pense que Gary Bettman est en train de perdre vraiment la tête là-dessus.
Donc, j'ajouterais aussi le fameux scandale de l'équipe Canada Junior, qu'il y a des joueurs actuellement qui jouent dans le circuit puis qui ont fait partie de ce fameux dossier de viol en 2018, puis on n'a pas l'air à vouloir tant que ça avancer dans ce dossier-là, rien dévoilé.
Donc, c'est un coéquipier de Kyle Beach, là. Faut pas que tu fasses aller. Nous, l'RDS, là, juste confirmé maintenant que je te parlais, là. C'est un ancien coéquipier de Kyle Beach, que lui, on va appeler John Doe. Donc, c'est un nouveau joueur avec l'équipe Ned, Ramonucci et Blandin à Chicago. Donc, il y a eu une plainte qui était faite, là, pour négligence envers son client. Donc, on va tenir ça proche, mais malheureusement, c'est le deuxième scandale de cette équipe-là. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et là, il y a beaucoup de monde qui pensait que l'entraîneur qui a été licencié dans ce dossier-là, reviendrait national, Joel Canville. Mais ça ne sera peut-être pas chose faite rapidement, mettons.
Non, effectivement, on va suivre ça. Mais tu sais, ça commence à déterrer. Tu sais, imagine tout ce qui s'est passé. Puis là, on commence à déterrer. Puis j'ai l'impression que ce qui se cache, c'est encore pas mal pire que qu'est-ce qu'on sait présentement, malheureusement. Je dis, si cette histoire-là est arrivée deux ou trois fois, ben c'est possiblement arrivé 4, 5, 6, 7, 8 fois, on ne sait pas. Là, mais on va souhaiter que finalement, c'était ces deux cas-là isolés et qu'il n'y en a pas eu d'autres tant que ça. Mais moi, normalement, quand il y a des cas comme ça qui commencent à sortir, c'est que ça cache d'autres choses de plus gros, malheureusement. Moi, mon coup de pied, ça s'est produit hier. On avait tout un match-up en fin de soirée entre l'Avalanche du Colorado et les Golden Knights de Vegas. Je me suis dit, wow, ce game-là, faut pas que je la rate. Ça va être, tu sais, c'est pas mal deux équipes qu'on les voit comme favorites dans l'Ouest. Fait que ça va être une méchante bonne game serrée. Marque finale 7-0 pour les Golden Knights. Donc, mon coup de pied, ça va à l'Avalanche du Colorado. Puis, tu sais, je sais qu'ils ont quand même essayé. Là. Ils ont tiré 41 fois. C'est pas parce qu'ils n'ont pas essayé, mais tu sais, faut que tu réussisses quand même à stepper up puis pas te faire planter de même 7-0. Est-ce que c'est Vegas qui est si fort que ça?
Moi, je pense que oui.
C'est sûr que Vegas, ils ont une méchante bonne équipe, mais l'Avalanche également une très bonne équipe, puis ça n'aurait pas dû se terminer 7-0. Là, je m'attendais à un duel beaucoup plus serré. C'est pas grand-chose, puis tu sais, c'est un match en début de saison. Je veux dire, c'est pas la fin du monde, mais je pense que c'était une belle occasion de un peu avoir un avant-goût de qu'est-ce qu'on pourrait voir en série entre ces deux équipes-là, puis malheureusement, ça a été un duel qui était en sens unique. Donc, on va espérer que lors du prochain duel entre les deux équipes, ça sera plus serré. Mais je dois avouer que j'ai été amèrement déçu samedi dernier, en fait hier, quand je voulais regarder ce duel-là.
Écoutez, Blackhawks, pas les Blackhawks, mais les Golden Knights vont être vraiment durs à battre cette année dans tous les sens du mot. C'est un cadeau du ciel qui, présentement, fait beaucoup effet, mais j'ai l'impression que ça va être toute une équipe pour les prochaines années. On semble pas déroger, on n'a pas de complexe au niveau des gardiens de but, la ligne offensive est très bonne, défensivement on est solide et fort aussi, on bloque des lancers plus que les autres équipes. Je te dis hier, oui c'est un sens unique, mais je te dis qu'on va en avoir plus qu'on pense du sens unique de cette équipe-là cette année.
En tout cas, on va faire un lien, parce qu'un match qui n'a pas été à sens unique, moi pas pour les Golden Knights de Vegas, eh bien c'est le Canadien qui a cru que le Canadien allait surclasser les Golden Knights de Vegas comme ça dans un match, mais malheureusement pour le Canadien, ça s'est terminé en fusillade et les Golden Knights ont quand même eu le dessus, mais ça a été probablement un des meilleurs matchs canadiens cette année et c'était contre les Golden Knights de Vegas. Encore une fois, Sean Monahan qui marque un but dans ce match-là, Suzuki qui a inscrit son deuxième de la saison. Pour vrai, Monahan là, connaît vraiment un très 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 bon début de saison jusqu'à maintenant. Solide performance aussi devant le filet là, du côté de Montembeau. Malheureusement pour lui, ses coéquipiers n'ont pas été en mesure d'aller chercher le but gagnant. Il a arrêté un tir de pénalité de Jack Eichel en prolongation. Donc, tu sais, quand tu parles d'un moment important et surtout que ça doit être stressant quand tu as un Jack Eichel qui est devant toi et que s'il score, c'est fini. Réussi quand même à faire l'arrêt là-dessus. Malheureusement, ben, en tir de barrage, il n'a pas réussi à tout arrêter. Mais somme toute, là, très bon match. Puis c'est le seul match de la semaine que j'ai regardé au complet parce qu'évidemment, c'était des matchs en fin de soirée. Et d'ailleurs, le match contre les Coyotes de l'Arizona, j'en ai payé le prix parce que je me suis endormi dessus parce que j'avais pas assez récupéré pour le match contre Vegas. mais ça a été un très bon match pour vrai. Là. C'est fun de voir que le Canadien est capable de tenir tête à des équipes. Ouais. On se parlait la semaine passée et on se disait que ça va être une volée en règle probablement mm-hmm. Entre les deux équipes. Là, Vegas vont passer sur le corps du Canadien, mais non, CH qui a vraiment bien joué. Gros match également de Caden Gourley. Là. Qui a bien joué aussi. Donc, non, pour vrai, c'est fun de voir que le Canadien peut être compétitif, même contre les grosses équipes.
Non, on a laissé notre trip dans ce game-là, je pense. Ça n'a pas été jojo pour le reste de la semaine, mais vraiment, on a vraiment tout donné. Et puis, honnêtement, c'est bon de voir que le Canadien peut rivaliser contre ces équipes-là. Vegas va être une équipe vraiment forte. Puis, écoute, ça arrive de jouer des mauvais matchs, une jeune équipe. On ne blâmera pas trop le Canadien là-dessus, mais ça reste que de voir des performances comme ça. Ça apporte son lot de bonnes nouvelles. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour les prochaines semaines. Mais quand même deux défaites de suite cette semaine. Donc, on va essayer de revenir sur le terrain de la victoire du Canadien cette semaine.
En fait, trois défaites de suite parce qu'ils ont perdu également contre l'Arizona ouais. et contre les Blues.
Ouais, mais en progression.
Ouais. Du côté du match contre les Coyotes, eh bien, un autre match serré. 3-2, la marque finale. Et guess what? Monahan qui a marqué encore dans ce match-là pour son sixième de la saison. Sinon, Brendan Gallagher, qui a été largement critiqué avant le début de la saison, puis même dans les premiers matchs, on disait ah, il est rendu lent, il est fini, mais faut avouer qu'il joue du bon hockey derrière moi, le Brendan Gallagher. Là. Même les vétérans, Monahan, Pearson aussi, c'est un bon trio. Mais encore une fois, le Canadien qui n'a pas eu le dessus dans cette rencontre-là. Je ne pourrais pas vraiment parler de ce match-là parce que, comme j'ai dit, je me suis endormi après la première période. Et pourtant, ce n'était pas une mauvaise première période. Tu sais, j'entendais les critiques par la suite que c'était un match dégueulasse pour le Canadien. Je ne sais pas ce qui s'est passé en deuxième, pas en troisième. Mais pourtant, en première période, ça avait l'air quand même pas si pire. C'était un match assez even. Le Canadien qui s'est fait refuser un but à cause d'un hors-jeu. Je pense que c'était Suzuki qui avait marqué. Puis ensuite, on a accordé un tir de pénalité. On a marqué du côté des Coyotes. Donc, tu sais, si tu enlèves ces deux éléments-là. C'est un match pour moi plus serré qu'anticipé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé en deuxième, pas en troisième. Si quelqu'un dans le chat peut m'expliquer, mais ça a l'air que ça a été un match horrible pour le Canadien à lire ce qui circulait sur les réseaux sociaux et tout ça. Fait que je ne sais pas si ça a dégringolé tant que ça. Stéphane, as-tu vu la fin de la rencontre? Peux-tu m'éclairer un peu?
Non, avec les Blues, je n'ai pas gagné non plus. Désolé, mais en même temps, pas surpris les Blues. C'est une équipe qui est difficile à jouer contre. Puis le Canadien n'est pas très bon contre les Blues de nature. J'ai regardé les faits saillants. Là, on n'a pas été sous la rondelle ben. On n'a pas été vraiment opportuniste non plus de ce côté-là. Mais tu sais, les Blues, c'est une équipe qui lentement mais sûrement. Donc, on s'est probablement fait avoir au niveau de la charge de travail, aussi au niveau de la grosseur, la robustesse. Probablement ça qui s'est passé de ce côté-là. Là.
Écoute, côté du Canadien, dans le match contre les Blues de Saint-Louis, on était quand même dans le coup après deux périodes. Là, c'était 3-2, mais c'était en troisième là, que la chaîne a débarqué là, avec trois buts là, sans réplique. Là, il y a Toropchenko qui a marqué, Braden Chen aussi, Kasperi Kapanen. Et en fin de rencontre, Suzuki qui a ramené les deux équipes là, à trois buts d'écart avec son troisième de la saison. Mais sinon, les deux premières périodes, c'est quand même pas si mal. Mais on a juste... pas été capable de...
Encore un but en désavantage numérique. Toropchenko qui a scoré en short and goal encore. C'est une coutume qu'on a plusieurs fois du côté du Canadien. On ne capitalise pas sur nos avantages numériques tout le temps, mais on est vraiment faible du côté de du avantage numérique non plus. En avantage numérique, je veux dire, on se fait beaucoup berner à la ligne bleue. Donc, c'est sûrement un but qui a fait mal là, en troisième période. En début de troisième période, on se bat en avantage numérique. Pour ça, deux buts rapides de côté de Chen et Kapanen. Donc, c'est probablement ça qui s'est passé de ce côté-là. Là.
Et cette semaine quand même intéressante pour le Canadien parce qu'on joue trois matchs contre des équipes de notre division et match Canadien Red Wings, il va falloir qu'on check ça. Mm-hmm. Ça va commencer mardi contre le Lightning de Tampa Bay du côté de Montréal. Ensuite, jeudi,
ce sera contre... J'y serai.
Oh, tu vas être à la rencontre en plus. Tu vas nous raconter tout ça.
Exact.
Là, il faut qu'on mette quelque chose au clair, parce que je sais que tu m'as dit qu'à un moment donné, tu pars un petit voyage. Je me souviens plus si c'est dimanche prochain ou l'autre d'après.
Ouais, je pars dimanche prochain, le 12 jusqu'au 16.
Fait que tu ne vas pas nous parler du match finalement,
non.
Malheureusement. Mais, bon, tu y vas sûrement avec tes gars?
Non, je vois tout ça, c'est un voyage à job. Donc, je vais jouer au golf dans le sud. Je vais être sur les îles. Je vais être sur les îles de la République dominicaine du 12 au 16.
Non, mais je te parle pour la game du Canadien.
Ah ouais, donc ouais, je vais être là. Je vais être là ce soir. Mais on peut faire le podcast une autre journée si tu veux avant que je parte, mais sinon, peu importe. Là. Oui, je vais être là. Je vais être là avec des trois gars de ma job, un beau petit cadeau d'un client, donc ça va être la fin.
Ensuite, bon, jeudi, ça sera du côté de Détroit. Vas-tu être à Détroit aussi jeudi?
I wish, mais non, je suis pas à Détroit. Le jet privé n'est pas sorti max encore.
Non. Détroit que ça partit fort, mais ça commence à ralentir un petit peu.
Arrête, on a première défaite des Browns cette année, c'est nous qui l'a donné. Let's go!
Oui, oui, mais attends un peu, le trio de Debring 4, Larkin n'est plus autant en feu, mais il fallait s'attendre aussi. Là, mais c'est quand même un match qui va être intéressant, tes deux équipes. Les matchs Détroit, Montréal, d'habitude, il y a quand même beaucoup de buts qui se marquent dans ces rencontres-là. J'ai hâte de voir si ce sera aussi offensif. Et on termine ça samedi avec un bon vieux duel Canadien-Bruins. Est-ce que Zakai va se pogner contre Lucic?
C'est-tu là que ça va être bon? Je pense pas. Par contre, ça va être robuste. La bonne vieille philosophie de Boston est revenue cette année. Et Boston, là, on va en parler probablement plus tard, mais c'est une équipe encore qui surprend cette année. Là. Comme je disais tantôt, pour écrire la première défaite cette année en 11 rencontres par les Red Wings. Donc, on est 8-1-1 au cours des 10 premiers matchs. Mettons le 9-1-1. Et c'est assez incroyable ce qui se passe avec les Browns. J'ai écrit les statistiques, tout le monde produit. On pensait que Pavel Slava serait pas bon cette année. Il est quand même bon cette année. Et à part Zaka, excuse-moi. Et on a Marchand qui continue de faire des frasques non punies. Donc tout va bien.
Qu'est-ce que penses-tu du Croc-en-Jambe? On reviendra là-dessus tantôt, là, mais.
Ouais. C'est un petit peu dommage, mais on va dire.
Zaka, ça a été long avec sa démarre, par contre. Au début, je pense qu'après, puis je parle en connaissance de cause, je l'ai dans notre pool keeper, puis j'avais hâte qu'il se mette à produire en maudit. Je pense que les 5-6 premiers matchs, il n'y avait aucun point, mais là, ça commence là, à rentrer là, les points là, du côté de Zaka. C'est sûr qu'on a quand même des gros souliers à chausser, ceux-là de Bergeron et ou Krejci. Donc, c'est pas. Tu ne remplaces pas un joueur de 4e trio, là, tu fais ta première, puis il faut que tu fournisses Marchand puis Pasternak, qui Pasternak connaît encore une fois toute une saison là, jusqu'à maintenant. Ça va être un match intéressant entre les deux équipes. J'ai hâte de voir. Là, c'est sûr qu'on a perdu un peu le cachet des matchs canadiens-Boston dans bon vieux temps, là, une dizaine d'années. La rivalité, je trouve qu'elle n'est plus autant forte. Mais là, avec un Lucic qui revient, avec Jacky qui est là pour brasser un petit peu, peut-être qu'on va réussir à aller chercher des petites étincelles à nouveau. Et Marchand va sûrement faire son Marchand également. Et ça peut permettre de relancer un peu, là, justement, cette rivalité-là. Donc, je vais te poser la question qu'on se pose à chaque semaine. Combien de points cette semaine pour le Canadien? C'est une possibilité de suite.
Écoute, ça va être difficile. Je peux pas dire vraiment qu'ils vont gagner contre les Red Wings parce que mes Red Wings vont gagner, je l'espère. Donc, moi, je vais y aller avec 2 points.
Moyen avec un 3. Moi, je pense que Montréal, Détroit, ça finit en prolongation ce game-là.
Oh, vu qu'ils vont battre qui?
Moi, je pense qu'ils vont battre Tampa. Il n'y a pas tant de gros club.
Johansson nous surprend cette année. Là. Moi, je pensais que Tampa Bay s'écroulerait, mais Johansson va vraiment bien dans les filets du côté de Tampa Bay. Mais ouais, les choses à domicile en plus. Tampa Bay, il fait chaud. Ils vont enlever ça, tu t'as frette. Ils font tout déstabiliser.
Ils vont aller à une certaine place aussi avant la game. Fait que...
Oh, mais... Sûrement, ouais, effectivement.
Donc, Steph, on va démarrer maintenant avec le premier sujet à l'ordre du jour. Et il faut parler des Sharks de San Jose. Écoute, tu sais, je sais que l'équipe est en rebuild.
C'est sûr.
Parce que, à la lumière de ce qui s'est produit en fin de semaine, ils ne sont pas en rebuild, il y a un problème. Non. Donc, les Sharks qui ont accordé pas moins de 20 buts dans le week-end, 2 matchs de 10 buts de suite qui ont accordé, je pense que je n'ai jamais vu ça de ma vie pour vrai.
La première fois depuis 1965, c'était qui l'équipe, tu pensais?
Pas Montréal, j'espère qu'il
y a Les Leafs.
Oh, quel drôle de monde.
Là, je te fais plaisir.
Non, mais bon, ça a commencé avec un match de 10-1 contre les Canucks de Vancouver, ensuite 10-2 hier contre les Penguins de Pittsburgh. La question que je veux te lancer, parce que on sait que l'équipe est en rebuild, ça, on le savait depuis le début de l'année, mais est-ce que tu penses que ça va avoir un impact un peu sur les jeunes, sur l'équipe actuellement, parce que on s'entend que les jeunes, ils se développent pas bien dans ces situations-là. Donc, tu sais, oui, je comprends qu'on est en rebuild, mais est-ce qu'on est en train de, en plus, essayer de rebuilder, mais est-ce qu'on est en train de scraper le développement des gars comme Eklund, par exemple, ou Thomas Bordeleau qui est là également là, du côté des Sharks. Donc, est-ce que c'est bon de se faire manger des volets de même match après match? Puis, tu sais, c'est pas juste ces deux matchs-là, parce que oui, là, on parle de ces deux-là parce que c'est 10 buts en 2 matchs de suite, mais avant, il y avait à peine une moyenne d'un but par match depuis le début de la saison. un but par match. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Mais comment tu vois ça, toute cette situation-là avec les Sharks?
Écoute, moi, je pense que c'était bon, il y a 25 ans, quand il y avait le choix de premier. Le premier choix au repêchage n'était pas une loterie. Et je pense que non, c'est pas bon. Bon, on l'a vu que le Canadien, comment que le Canadien était crissé les années 2000-2010, fait que l'équipe n'était pas gagnante jamais, qu'on avait une situation perdante à Montréal à chaque début de saison, qu'on avait une attitude de perdant. Et malheureusement, je pense pas que les gérants, pas les gérants, mais les vétérans de cette équipe-là sont heureux. Donc, c'est ça un peu la différence que je pense avec une équipe comme, mettons, Détroit, là, 4-5 ans, ou une équipe comme les Blackhawks cette année, ou une équipe comme Blackhawks l'année passée, mettons. Donc, je pense que c'est pas un bon environnement. C'est surtout pas une place où c'est très, très hockey non plus. Ça n'ose, on va se le dire tout de suite. Donc, ça doit être assez difficile de mettre les joueurs en contexte puis de leur mettre en présence, d'être vouloir jouer. Là, en plus, on mange des volets. C'est 10 à 2, 10 à 0. C'est pas des scores qui sont quand même serrés. On semble pas avoir 0-0 cohérence sur la patinoire. On bench les vétérans qui ont des contrats, je vais dire comme ça, de merde. Et je pense que on n'a pas d'environnement gagnant, on n'a pas vraiment de choses. Est-ce que c'est bon? J'espère que c'est bon pour juste cette année et que l'année prochaine, on va commencer avec d'autres choses, amener peut-être un peu de vétérans là, parce qu'on va avoir une masse salariale complètement stupide l'année prochaine. Mais dans le même temps, moi, si je suis Thomas Sertel présentement, je veux pas jouer là plus qu'un an. Là, donc, ton meilleur joueur risque de partir ou par une vie de transaction ou par demande de transaction. C'est difficile. On n'a pas de gardien de but. Blackwood ne fait pas la job cette année. Il ne faisait pas d'ailleurs, de toute façon, à part en deuxième avec les Devils. Kapo Kekkonen ne fait pas super bien non plus cette année, mais en même temps, on n'a pas de défenseur devant lui. Donc,
c'est surtout la ligne bleue qui fait dur, là, honnêtement.
Honnêtement, c'est très difficile de côté de cette équipe-là. Et même moi, là, je me demande même pas si ça va être la pire équipe depuis des temps. Là. Donc, c'est pathétique ce qui se passe présentement là, du côté des Sharks et on semble pas avoir le bouton de panique. Évidemment, on est en reconstruction, comme tu le dis, mais on semble pas non plus le dire que ben, c'est pas vraiment grave. Tu vas sur le site de San Jose puis va sur leur Twitter. Là. Ils font juste dire on sait qu'on est mauvais puis on regarde les filles danser sur la patinoire puis comme si tout était normal. Est-ce que ça donne une belle image? Je pense pas. Puis je me souviens pas d'avoir vu une autre équipe dans un autre sport. Que c'était aussi pire que là. Les rendements sont vraiment mauvais. Souvent, les autres équipes qui sont quand même, mettons, 0-16 au football ou 0-17 ou à la NBA qui finissent avec 30-40 victoires ou mettons 20 victoires ou dans la MLB quand ils finissent avec 40 victoires, les équipes n'ont pas de l'air si mauvaises que ça quand même. Là, on semble vraiment avoir lâché prise du côté des Sharks. Et évidemment, mais c'est pas ce qu'on veut voir sur la glace. Donc, écoute, ça a permis aux Pingouins cette semaine de se refaire une beauté parce que les Pingouins n'allaient pas super bien. Donc, on doit avoir le slip coquille un peu moins serré du côté des Pingouins. Mais ça reste que c'est toute une volée qu'on mange du côté des Sharks de présentement. Là, c'est moins 43 dans les buts pour ou plus contre. On a seulement 11 parties de jouer. Donc, écoute, moi, si je serais l'entraîneur de cette équipe-là, je pense que je déciderais de crisser mon camp. C'est vraiment le même que je le ferais.
Moi, je veux surfer sur un point que tu as mentionné parce que c'est un très bon point. Quand tu as dit, tu sais, c'est pas un marché qui est déjà hockey à la base, est-ce que justement ces résultats-là vont peut-être décourager un peu les partisans puis ils vont faire décrocher puis ils vont quitter le navire parce que, tu sais, on s'entend, là, San Jose, on n'a pas pour un ou deux ans là, de
reconstruction. Oh non, ça va être long,
là. Puis s'ils sont pour manger des volets de même puis ne marquer même pas un but par match, penses-tu vraiment que les gens vont aller payer pour voir ça? Moi, je pense qu'ils vont, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots puisqu'il fait chaud là-bas, ils vont déserter.
C'est pas une franchise qui est vieille. Là. 91, là, on oublie, mais c'est l'une des dernières expansions qu'on a eues dans la Ligue nationale. Donc, c'est les Golden Seals de Californie qui avaient déménagé à Cleveland pour après ça s'en aller avec les Sharks. Donc, écoute, c'est un bon point que tu leur ramènes. Moi, je pense que si on perd intérêt de ce côté-là, on va perdre vraiment beaucoup. Puis, moi, je vois pas dans les 2-3 repêchages qui s'en viennent des joueurs qui pourraient changer une franchise. On parle beaucoup du jeune là, dans 2 ans, en 2025, qui est.
Michael Misa. Cette année, on parle beaucoup de Celebrini. Mais tu sais, même si ces joueurs-là arrivent l'an prochain, tu sais, ça ne veut pas dire qu'ils vont. L'an prochain, là, le prochain repêchage, tu sais, oui, il y a Cole Iserman qui va être bon. Ouais. Michael Celebrini aussi. Mais ce n'est pas des Connor Bedard. Ça va être des très bons joueurs, mais ça ne sera pas un joueur générationnel comme Bedard cette année. Fait que même s'il arrive l'an prochain, puis d'habitude, quand ça joue, là, il joue présentement dans la NCAA, mais. Souvent, les joueurs de la NCAA vont jouer une année de plus avant de faire le saut. Il y a Jack Hughes, je pense qu'il ne l'a pas fait. Ouais. Mais normalement, là, les joueurs vont... Tu sais, Owen Powers l'a fait avec les Sœurs de Buffalo, entre autres. Donc, tu sais, il ne faut pas s'attendre. Puis, tu sais, même s'il y arrivait l'an prochain, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il va revirer la franchise. Tu sais, Connor Bedard joue cette année, puis les Blackhawks sont encore mauvais. Là, je veux dire, ça ne va pas revirer une franchise de bord en un an. Fait que, tu sais, on parle d'un bon 3-4, c'est pas 5 ans, là, avant qu'on ait vraiment une équipe qui a de l'allure du côté des Sharks, parce qu'il y a des trous partout.
Ouais, si on va accepter ce côté national que ce gars-là, cette équipe-là, stack pour 5-6 ans, je pense pas. Ce gars, je sais pas si c'est Gavin McKenna en 2026, que je me suis trompé, qui est probablement un des très bons joueurs qui s'en vient s'il se développe comme les gens en pensent. Mais est-ce qu'on va accepter du côté national d'avoir cette équipe-là pendant 5-6 ans mauvaise et gagner des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, premier, deuxième, troisième, quatrième au total? J'ai hâte de voir, on l'a accepté avec les Hallers. Ça a pris du temps avant que ça fonctionne. On a eu besoin de deux autres bons choix repêchage.
Ça ne fonctionne pas encore tant que ça.
Ouais,
les Hallers, ils en arrachent également cette année. Là.
Donc, c'est pas gage de succès. Et ça fait longtemps qu'on en parle à Montréal. Hein. C'est beau les choix de repêchage. C'est beau de vouloir échanger n'importe qui avec n'importe quand puis n'importe quoi de choix de repêchage, mais c'est pas un gage de succès pendu.
Faut-tu ramener le débat sur le Montréal? Non, mais c'est un bon point. Je veux dire, il n'y a rien qui est exact là, au hockey, dans le sens que le repêchage, ce n'est pas exact. Les transactions, ça ne veut pas dire que tu vas la gagner. Il n'y a rien qui. Une signature d'un joueur sur le marché des joueurs autonomes, il n'y a rien qui garantit non plus. Les contrats de merde, on en a vu les dernières années aussi. Fait que tu sais, il n'y a rien de certain de toute façon. Mais effectivement, à un moment donné, c'est bon avoir des choix au repêchage, mais il faut que tu réussisses à choisir les bons gars, il faut que tu réussisses à les développer. T'sais, c'est un long processus, là, c'est pas juste. Yes, j'ai le premier joueur overall, fait que notre calvaire est fini, puis on va remonter au top. Là, c'est pas, y a encore beaucoup de travail à faire. Puis là, on regarde présentement les Sharks cette année pour le repêchage 2024. Ils ont deux choix de première ronde. Ils ont le leur.
Ouais.
Ils ont les Pingouins qui est conditionnel. Là, la condition, ça peut devenir un choix en 2025. Donc, c'est pas garanti que ça va être un choix cette année. Ils ont le choix de deuxième ronde également des Devils New Jersey dans la transaction là, de Timo Meier. Mais encore là, c'est un choix conditionnel aussi. Et la liste de conditions est longue comme le bras, donc je ne vais pas la lire. Mais si on regarde les joueurs, c'est sûr qu'ils ont plusieurs joueurs autonomes qui vont devenir libres comme l'air cet été. Mais ce n'est pas des joueurs qui vont te rapporter des choix de première ronde.
Personne ne va rester. Il n'y en a personne qui reste dans cette équipe-là qui vont nous offrir des choix de première ronde.
Tu as Kevin Labanc, tu as Mike Hoffman, tu as Anthony Duclair, tu as Ryan Carpenter. C'est pas mal les joueurs qui vont tester le marché des joueurs autonomes à la fin de la saison. Mais tu sais, t'as pas de gros joueurs là-dedans. Tu sais, Hoffman, tu ne donneras pas un choix de première ronde. Duclair non plus. Fait que tu sais, il va falloir être créatif du côté de San Jose, mettons.
Ah, le seul qui pourrait faire ça, c'est Thomas Sertel. Puis écoute, ça se fera pas non plus. Là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on a Logan Couture qui est blessé. Ça l'aide pas non plus. Mais tu sais, regarde comment la structure de cette équipe-là est faite. On a déjà 3 millions seulement en dead cap. C'est pas beaucoup en cap space quand on regarde ça pour une équipe aussi mauvaise. Mais on a quand même des rachats stupides. Là. Eric Carlson, encore 1,5 million pour 4 ans. Brett Burns à 2,725, 720 par année. On a Martin Jones qui coûte 3 millions cette année, 1,6 l'année prochaine. Rudolph Balser à 308 cette année. Ça, des joueurs qui ne joueraient pas. Là. Donc, des pénalités aussi qui ont été faites là, avec Oscar Lindblom et Radim Simek. Donc, on est vraiment mal structuré. Je ne sais pas comment on va s'en sortir du côté de Mike Greer. Là. Ça va prendre tout un changement et toute une philosophie ou une nouvelle vue du côté de cette équipe-là. Et regarde ça l'année prochaine. On a seulement 5 défenseurs de signer sur 8. Puis on a seulement 6 joueurs d'attaque de signer sur 13, sur 12. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai hâte de voir qui va vouloir rester là. Probablement que Mike Hoffman s'y plaît à 4,5 millions. Mais l'année prochaine, je ne garantirais pas à 4,5 pour Mike Hoffman.
Bon, on a assez fessé sur les Sharks, je pense. Moi, je pense qu'on va changer d'équipe, mais il y a d'autres équipes que ça va pas bien. Et là, les Sénateurs d'Ottawa, là, je pense que c'est rendu les nouveaux Coyotes de l'Arizona. Là. Il y a toute une saga qui éclate, toute une affaire qui ne fonctionne pas. Bon, là, il y avait le dossier de Shane Pinto là, avec les paris sportifs que ça n'a pas. Il a été suspendu là, la 41 matchs. On pensait de cette sortie là, des eaux troubles. Et non, un autre dossier qui revient en pleine face. C'est le fameux dossier de Evgeny Dadonov qui remonte il y a quelques
18 mois.
Alors, bon, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, on avait essayé d'échanger là, du côté des Sénateurs Dadonov. Je pense que c'était au Docks, puis que la transaction elle a avorté. Ou il y a Vegas là, aussi qui était là-dedans. Mais bref, on s'est informé, l'équipe qui allait faire l'acquisition de Evgeny Dadonov s'est informée, bon, est-ce qu'il y a une clause de non-échange? Ah, t'as peu. Non, OK, t'as peu. Rewind. C'est qu'il a été échangé, je pense, à Vegas. Après okay. ça, Vegas a voulu l'échanger à Anaheim. Mm-hmm. Et la transaction, elle a avorté parce que finalement, il y avait une clause de non-échange exact. Que les Sénateurs n'avaient pas avisé du côté mm-hmm. des Golden Knights. Alors qu'on s'était informé, on avait demandé est-ce qu'il y avait une clause de non-échange qui nécessitait que Dadonov ait à fournir une liste d'équipes. Et les Sénateurs ont fait non, il n'y a pas ça. Mais finalement, il y avait ça. Donc là, ça a comme foutu un peu le bordel avec les Golden Knights et tout ça. Et là, résultat des courses, c'est bien la Ligue nationale là, qui a sévi en enlevant le choix de première ronde des Sénateurs, soit en 2024, soit en 2025 ou soit en 2026. Là, je pense que c'est les Sens qui vont choisir l'année. Là. C'est encore bon qu'ils choisissent l'année. Moi, si ça avait été juste l'année dernière, tu perds cette année-là des attitudes.
Non, écoute, je te coupe, je suis désolé. C'est sûr que c'est parce que le propriétaire est nouveau. Là. Ouais. Dans n'importe quel autre sens, on n'aurait pas dit t'as failli à une règle importante dans la Ligue nationale, je vais donner ton choix entre trois saisons pour perdre ton choix numéro un. Comment dire, là?
Mais tu sais, Elliot Freeman avait mentionné justement dans son dernier podcast qu'il s'attendait à une sentence, pas bonbon, mais tu sais, justement une sentence plus légère parce que justement c'est un nouveau propriétaire, puis tu sais, c'est pas lui qui avait approuvé tout ça, puis il n'y avait rien à voir dans ce dossier-là. C'est juste que. Puis tu sais, fun fact, j'ai vu un tweet passer, je me souviens plus. C'était quoi? Mais en tout cas, il y en a un qui disait, tu sais, c'est un peu ironique que les Sénateurs aient caché, mettons, la clause de non-échange, mais la LNH avait caché quelque chose, genre, au Sens durant la vente. Tu sais, il a comme su après, justement, puis je pense que c'était ça le dossier d'Alanov, en tout cas, bref. Mais tout ça pour dire que du côté des Sens, ben, on vient de perdre un shot de première ronde, et là, du côté d'Ottawa, eh bien, ça n'a pas passé du tout au conseil. On a pris la décision de congédier Pierre Dorion, qui. Doit maintenant se trouver un nouvel emploi parce que, tu sais, j'aimerais ça savoir vraiment comment ça s'est passé. Il y a tout le temps deux côtés à une médaille, là, mais tu sais, comment tu peux cacher à une équipe qui te pose directement la question est-ce qu'il y a une clause de non-échange? Puis tu y réponds non. Je veux dire, j'ai comme de la misère à croire ça. C'est-tu parce qu'on était vraiment ignorants et on ne le savait pas? On a vraiment essayé de cacher ça. Si c'est ça pour vrai, là.
Tu t'es muté, mon Max, je pense. Tu t'es muté. Bloopers!
Comme je disais, je peux pas croire qu'on a volontairement caché ça, si c'est vraiment ça, là, pour vrai. Congédiement pleinement mérité.
Bon, c'est sûr que c'était un congédiement, là. Puis écoute, c'est pas des bonnes décisions. On a fait des très bonnes décisions, Pierre Dorion, puis il est arrivé avec cette équipe-là, mais on n'a pas fait pas tout le temps été rose. Et je pense que. Endlauer, premièrement, elle va mettre probablement une personne de confiance là, on le sait tout. Et là, Stahos, va-tu rester, on le sait pas. Il y a beaucoup de noms qui sont sur le gun présentement au niveau des directeurs généraux pour les Ottawa. Moi, je pense que Marciusiach, ça pourrait être une bonne personne. C'est un bilingue, c'est un gars qui va pouvoir représenter là, que les gens francophones du côté d'Ottawa aussi.
Écoute, je vais te prendre une seconde parce que j'allais te lancer là-dessus parce que je sais qu'on avait eu la discussion pour DG des Leafs. Moi, je disais, Mathieu Darche, il serait bon là-bas. Tu disais, non, c'est trop un gros marché, trop de pression, pis ça. Mais Ottawa, là, ça serait un bon fit. Là. C'est plus
petit. C'est un bon fit.
C'est tout le temps un marché plus sous-estimé parce que c'est un peu entre Montréal et Toronto. Malgré que là, les attentes sont un petit peu plus élevées du côté des Sens, dans le sens que là, on veut essayer de faire des séries. Mais tu sais, c'est quand même un plus petit marché, il est moins médiatisé, c'est ben là, pas ces temps-ci, là, ces temps-ci, ils font tout pour être dans les médias. Mais normalement, tu sais, c'est pas la horde de journalistes comme on a à Toronto par Montréal. Je pense que ce serait un excellent fit là, du côté de Mathieu Darche avec les Sens.
C'est un bon fit, puis c'est une jeune équipe, donc c'est l'image un peu de qu'est-ce que l'Ottawa veut faire, je pense. Puis Mathieu Darche, c'est un grinder, hein, c'est un gars qui a toujours grindé qu'est-ce qu'il va faire, c'est un gars qui a une bonne tête avec les Lightning présentement. Et oui, moi, je pense que ça serait un bon fit. Oubliez les Patrick Roy de ce monde-là. Oubliez les... C'est quoi l'autre qu'on dit aussi? C'était l'ancien, le journaliste là, qui était aussi dans la liste. Oubliez ça, ça ne marchera pas. Moi, je pense qu'on va aller vers un joueur... Pas un joueur, mais un gars de hockey.
J'aimerais tellement ça qu'à un moment donné, un journaliste devienne DG de l'équipe de la NHL. Tu sais, on a un agent avec Ken Hughes, on a eu...
On n'avait pas l'ancien qui avait été fort pour Pittsburgh aussi, l'ancien de Sportsnet là, qui avait essayé, puis finalement, ça n'a pas marché. Il a fait un poste, mais en tout cas, ben, je ne me disais pas le nom. Là. Mais effectivement, ça serait assez bizarre à voir. Moi, je mets un 2 piastres.
Après ça, je voudrais voir, genre, justement, les Sharks s'engager un partisan, genre, comme. Ça serait malade. Pour moi, tu sais, que le genre de tout. Tu sais, quand tu dis de penser en dehors de la boîte, là, va chercher un partisan, t'invente, moi, ça, cette équipe-là.
Ouais, c'est ça. C'est pas terrible, moi, dire, ben, franchement, mais écoute, ça serait drôle à voir. Mais Ottawa, je pense qu'il faut les prendre au sérieux, puis je pense que c'est un marché qui va être pris au sérieux. C'est pas un marché qui est facile, hein. On est entre Toronto puis Montréal, c'est plusieurs fois qu'on le dit, c'est des marchés qui sont immenses.
Donc,
Arena,
c'est vraiment mal placé.
Arena est mal placé, puis ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on va enfin aller sur les plaines de Breton? On le sait pas, mais ça va coûter cher. Et dans la vente des sénateurs, ils s'en vont là-bas. Donc, ça va coûter cher, M. Lauer, mais... je pense que Mousson Lauer va commencer à mettre ses pions. Et évidemment, ça devait bouillir au bureau cette semaine. Je ne veux pas croire que 41 matchs la semaine passée, là, on perd un choix de première ronde. Tout va mal et on n'en parle pas beaucoup non plus, là, mais ça ne va pas bien pour l'entraîneur non plus. Fait que...
Non, effectivement. Puis en fin de semaine, je pense que c'est en fin de semaine qu'on a pris la décision de mettre...
Fire DJ aussi, ça chante pas mal pendant les games du...
On a pris la décision de mettre Claude Giroux, qui est un de tes joueurs les plus hauts cette année. Tu le mets ça à 3, tu mets Mathieu Joseph ça à 1. Tu sais, je comprends que tu veux lancer les 4. À un moment donné, faut que ça soit un peu logique aussi ton affaire. Là. Puis les Saints, je pense qu'ils ont perdu encore une fois ce game-là. Fait que ça va pas très, très bien là, du côté des Saints actuellement. Ça avait quand même relativement bien démarré, mais là, présentement... C'est sûr qu'avec toutes les distractions qu'on a autour de l'équipe, là, c'est un peu dur de se concentrer également sur le hockey. Steph, on va faire une transition avec une autre équipe que ça ne va pas très bien. Et Sam Antti, si tu es encore dans le chat, on va t'inviter à commenter ce fameux dossier-là. Parce que du côté des Devils, on parle beaucoup du Canadien là, qui perdent des éléments clés là, semaine après semaine. Mais là, les Devils sont un peu dans le même bateau. Là. Ça avait commencé avec Nico Hischier. Et là, c'est vendredi, semaine ouais. War et one. Ouais, Louis Jack Hughes qui a crashé quand même solide dans la bande. Et là, on a annoncé tout récemment là, que ce n'est pas une absence là, de semaine en semaine. Là. Donc, ce ne sera pas une absence à très long terme, mais ce ne sera pas juste day-to-day non plus. Et là, tu sais, je regardais aujourd'hui, là, parce que les Devils jouent actuellement là, contre les Blackhawks de Chicago. Je pense, ils mènent 2-1 tantôt. Je ne sais pas si c'est encore le cas, s'ils mènent encore la rencontre. Mais tu sais, je regardais les deux premiers trios, puis... T'sais, on prend le solide drop. Dawson Mercer, il est rendu sur le premier trio. Il a joué ça à 3 toute la saison. Il a connu une bonne première saison, par contre, avec les Devils. Ça, c'est quand même... Puis, en plus, il a marqué ce soir. Donc, c'était quand même pas si pire. Mais Michael McLeod, c'est rendu ton deuxième centre. Là, c'est là que j'ai pogné un demi-heure. Je me suis dit, oh boy, qu'il n'y a pas de profondeur au centre du côté des Devils. Tu sais, à l'aile, c'est quand même... On a Alexander Holtz, que c'est un choix top 10, qui joue présentement ça à 4. Mais on n'a pas présentement cette profondeur-là au centre. Puis je me dis que les Devils, quand je regarde ça, je me dis que les Devils sont à une ou deux blessures près de voir un effet boule de neige s'entraîner, puis, puis que la chaîne va débarquer.
Ah, je suis d'accord. Puis écoute, c'est une jeune équipe, on le savait déjà, hein, puis on avait dit qu'on avait beaucoup de talent offensif, mais quand tu perds tes meilleurs éléments, c'est un peu comme... puis on pourrait faire un drôle de parallèle, mais Thatcher Demko avec Vancouver cette année, c'est un peu ce qu'on a vu l'année passée. T'sais. Quand ton meilleur élément ou dans tes meilleurs éléments s'écroule pour blessure, ça fonctionne pas, on revient, on est encore blessé, ça fonctionne pas plus. Et là, j'ai hâte de voir du côté de Jack Hughes comment faire. Cette équipe-là a besoin de leur centre étoile plus que bien d'autres. Donc... j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis moi, je souhaite que les Dougie Hamilton de cette équipe-là, que les Vitanecek se ressaisissent et que ça allait bien. C'est une belle équipe à avoir joué. Mais là, c'est week to week, ils disent. Donc, c'est même pas day to day. C'est à chaque semaine qu'on va reviser, on va revoir la blessure de Jack Hughes. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Écoute, on va espérer du côté des Devils qu'ils vont réussir quand même à s'en sortir parce que c'est une équipe qui est vraiment le fun à voir aller. Là. Du talent, du jeune talent à mélanger avec des bons vétérans aussi. Mais Jack Hughes était vraiment en feu depuis le début de la saison. Il était sur un pêche, je pense, de 180 quelques points.
Ah, ça va vraiment ça.
Il maintenait la cadence. Là. Donc, on va souhaiter qu'il va revenir le plus rapidement possible. Sinon, Steph, moi, c'était pas mal les gros sujets que je voulais aborder. T'avais-tu des petites rafales là, pour.
On est un qu'on va débattre un petit peu. C'est pas notre sujet de Facebook, et vous en parlez, on ne s'assumera pas avec ça longtemps, mais. Je sais pas si quand le match canadien, je n'ai pas parlé tantôt parce que je voulais voir est-ce qu'on a un sujet à nous autres. Puis j'ai écouté la point de presse après de Tourigny qui est allé dire Slav est peut-être pas dans les meilleurs, non, peu importe, mais la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Et là, et moi, j'ai aimé le commentaire parce que j'adore Tourigny, j'adore la façon qu'il s'exprime, la façon qu'il comprend les choses. Je pense que c'est un renouveau pour un coach québécois. C'est un gars qui est un peu qui pense en dehors de la boîte. C'est un gars qui dit ce qu'il pense. Puis ça, j'aime ça, j'ai pas de problème. Le problème que j'ai, c'est est-ce que tu regardes dans ta cour quand tu parles comme ça et veux pas, les Coyotes de l'Arizona sont en reconstruction et sont en développement depuis déjà qui est là. C'est tous des joueurs jeunes, nouveaux. Oui, on a des Keaton Keller, on a des bons joueurs, mais on a des G.G. Mauser, on a les. Mais on a quand même beaucoup de jeunes joueurs à développer. Donc,
je pense que la différence, ce qu'il veut dire, c'est que. Puis, tu sais, il a fait son. Parenthèse, André Tourigny, pour vrai, si c'était pas Martin Saint-Louis le coach, là, ça serait l'entraîneur que j'aimerais avoir à Montréal.
C'est
les rangs juniors que je suis pas mal la carrière de cet entraîneur-là. Puis, tu sais, vois, c'est un homme qui réfléchit. Il faisait des cotes aussi à la radio, là, à BPM Sport, des fois. Puis, tu sais, il réfléchit à des bons parallèles. Tu sais, il fait son parallèle avec la médecine, là, quand tu étudies en médecine. Ouais. Mais le point, je pense, que tu veux mentionner en termes de développement, c'est oui, les Coyotes, ils ont une jeune équipe, ils ont des jeunes, mais les jeunes produisent puis participent présentement. Tu sais, J.J. Mauser, là, connaît encore un bon début de saison, une belle saison l'année dernière. Cooley est arrivé cette année, puis il y a un impact. Il est dans les premiers, pas dans les premiers, mais il est quand même parmi les recrues les plus productives depuis le début de la saison. Tu sais, je pense que c'est ça qu'il voulait dire, c'est qu'il ne veut pas emmener un gars qui n'est pas prêt puis qu'on va le développer pendant la. C'est un peu comme Slav. Slav, on le dit depuis le début de la saison, puis ouais. Même l'an dernier, qui aurait dû jouer en Europe, qui aurait dû jouer n'importe où, mais pas dans LNH. On a fait de la gaffe avec Kéké. Là, Kéké va super bien encore une fois cette année, une moyenne de points par match. Je pense que c'est le meilleur pointeur des Hurricanes. Mais quand le Canadien l'a fait jouer au départ, si on le voyait qu'il n'était pas prêt, alors que tu sais, Tourigny. Il fait jouer des joueurs que, oui, sont jeunes. Puis, tu sais, oui, ils vont progresser tout au long des prochaines années. Mais il y a une production dès le départ en ce moment. C'est pas des joueurs que tu vois que... Ah, tu sais, mettons, tu regardes aller Cooley puis tu te dis pas, ah, ce gars-là devrait jouer dans la Ligue américaine, il est pas prêt. Non, non, il fait des jeux, puis il produit, il récolte des points. Mon Dieu, c'est la même chose. Je pense que c'était plus... Bon.
Donc, Cooley était plus prêt l'an passé à être dans la Ligue nationale, ce qui fait qu'il est moins... C'est moins difficile cette année malgré les blessures que l'année passée. C'est dans la même zone.
Ben, Cooley, il jouait à la NCA l'année passée, donc il ne pouvait pas jouer. Pas
Cooley, est-ce que je pense pas être Cooley, excuse-moi, à Montréal. Excuse-moi.
Kaden Cooley?
Oui.
Ben, quand tu vois aller Kaden Cooley, est-ce que tu juges que ce gars-là a sa place dans la LNH? Moi,
oui, 100%, mais il a commencé un peu en même temps que Slakowski, tu comprends-tu? Fait que dans ma tête, ça veut dire que déjà lui, il est en avance sur Slav.
Oui.
Okay,
l'avance, tu le vois, c'est sûr que la production offensive, il n'était pas nécessairement là, mais c'est un def, mais il bloque des tirs, il relance, il appuie l'attaque, il est pas. L'année passée, tu me disais tu prends qui entre Kaden Gourley et Chris Weidman, je te dis Gourley à 100%. Il tasse un vétéran. Il était prêt. Est-ce qu'il était prêt à jouer 20 minutes par match comme il fait présentement? Peut-être pas. Mais sur une deuxième ou troisième paire, il ne va pas te nuire.
Je suis d'accord.
C'est plus ça mon point, mais tu sais, Slav, tu vois que par moment, ça va vite, par moment, il n'y a pas de confiance, manque d'autorité dans sa game, puis tu sais, qu'on aille faire jouer à Laval des grosses minutes avec des joueurs qui vont l'aider et non avec des joueurs que comme Anderson, qui malheureusement, je sais que tu l'aimes pas mal, Anderson, mais quand tu regardes vraiment comment il joue, aussitôt que tu le mets sur un trio, le trio ne fonctionne pas.
Ah non, c'est un étouffeur de talent présentement. Là, c'est pas. Fais penser à James Harden dans NBA. Bon, pas un autre sujet, là, mais c'est pas terrible présentement ce qui se passe du côté d'Anderson. Puis on n'a pas grand-chose qui sort de là. C'est un gars nord-sud, puis fait même pas nord-sud. Je pense que c'est même pas nord-est, nord-sud. Donc, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible.
Non, puis je pense qu'il est encore à la recherche de son premier but. Fait que, en plus, un de ses atouts, c'était capable de marquer des buts une fois de temps en temps, puis là, il fait même pas ça en plus. Fait que, disons qu'Anderson, il patine vite, mais il se passe pas grand-chose.
Ouais, il patine vite, mais il patine pas longtemps. Non, on va dire ça. Sinon, les sujets rapides, t'as-tu vu l'arrêt de Marc-André Fleury sur Trocheck?
En tir de barrage, ça.
Oh.
J'avais mal à mon aine que j'ai regardé ça.
Depuis ce jour-là, je boite, mon chum. Depuis ce moment-là, je boite.
As-tu vu l'arrêt de mon équipe?
Oui, je l'ai vu ça avec. Mais tu sais, je reviens à Flowers, puis on se dit, tu sais, on y a parlé en début de saison, est-ce que ça prend de retraite cette année? Puis j'ai l'impression qu'il ralentit, mais qu'il ralentit pas assez vite pour prendre sa retraite. Et j'ai l'impression que s'il y a une équipe qui cogne à sa porte, il pourrait jouer dans les prochaines années. Donc, il est encore en forme, notre Marc-André Fleury. Écoute, c'est un gars qui s'est probablement étiré toute sa vie comme Carey Price, mais qui n'a pas eu un crider dans les jambes. Donc, ça l'a sûrement aidé. Pas un croc en jambe, un crider dans les jambes. Donc, non, c'est ça, comme ça. Sinon, si on parle en dehors de la boxe un petit peu, moi, je suis quand même les anciens joueurs. Je suis les groupes puis les Twitter, les X de ce monde des anciens joueurs. Et je voulais juste souligner le Zdeno Chara qui a couru le marathon de New York.
Oui. Ouais, c'est,
donc, c'est assez impressionnant. Zdeno Chara, c'est pas un petit bonhomme. C'est un gars qui a besoin de... Écoute, c'est une grosse charpente, on le sait, là, on l'a vu avec la Montréal contre le Canadien trop longtemps. Mais c'est impressionnant à voir de voir que Zdeno Chara est aussi actif. C'est une machine d'entraînement, on le disait quand sa carrière était active, mais il repousse ses limites encore une fois et c'est le fun d'avoir. C'est juste une petite mention comme ça que j'avais à dire. Oui,
effectivement, puis tu sais, ça rend ça assez aussi, surtout dans les gros bonhommes comme ça. Souvent, les genoux commencent à lâcher un petit peu plus. Content de voir qu'il est encore top shape pour faire des marathons. Là. Même si on l'a haï tellement longtemps à Montréal, ça doit tellement être un chic type en dehors de la glace. Là.
Tellement.
Je sais que les gens vont dire « Ouais, mais il a failli tuer Patrick Reddy, c'est à la glace. » Mais je veux dire, c'est une mise en échec qui est un peu... c'était pas ça qu'il essayait de faire dans le sens qu'il essayait pas de se faire péter la tête sur le bord de la rampe. Là.
C'est la bonne rivalité, là.
Ouais, c'est ça, mais en dehors, on voit, il prenait des photos avec des partisans des autres équipes, ben des fois à Boston, puis ça doit vraiment être un chic type, Zdeno Chara.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et dernier sujet rapide, c'était la suspension de Andrew Mangiapane.
Ah, c'est pas lui qui a fait un cross-check, je pense.
Ouais, il a quasiment voulu faire un dîner avec la tête de McCann, Jarrett McCann. Et seulement un beau petit match de suspension. Donc, on était quand même pas pire, je pense, du côté national depuis le début de la saison. Et là, je pense qu'on était tanné des suspensions cette semaine. On a juste dit « Ah, la merde, c'est un match. » Donc, il a quasiment arraché la tête à l'autre à terre.
Ben, c'est une piste. Puis, tu sais, je sais que c'est deux gestes qui sont différents, mais je veux dire, l'intention est quand même là, les deux. Tu sais, tu donnes un match à Mangiapane, pourquoi t'en donnes quatre à McAvoy?
C'est
un coup à la tête directement dans les deux cas.
Dire, c'est la tête en plus, je pense que c'est pire en arrière de la tête. Où l'autre a une action, il saute des pieds, il saute. Mais là, c'est en descendant, entre le casque et le cou, là, c'est drette dans la nuque en arrière. Écoute, là, tu peux pas être plus. Ça peut pas être plus flagrant. Puis écoute, c'est deux pas deux mesures.
Non, puis tu sais, pourtant, je peux même pas te dire que c'est parce que tu sais, des fois, on voyait ça un peu dans le passé quand c'était un joueur vedette. La suspension est un petit peu moins longue, mais tu sais, Mangiapane, puis McAvoy, c'est pas mal plus de joueurs vedettes entre les deux que Mangiapane, puis c'est pourtant lui qui a eu le plus de matchs. Donc, je sais pas, je comprends pas trop c'est quoi. Je sais pas si c'est parce que la Ligue a pitié un peu des flingues parce que ça va pas bien cette année, puis qu'on dit on va pas leur enlever un gars pendant 3-4 matchs. Là. Évidemment, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, je comprends juste pas c'est quoi la logique. Puis tu sais, je vais pas manquer de respect envers George Parrow, c'est pas mal lui qui est dans les bureaux pour faire ce genre de décision-là, mais. Je veux dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, là, j'aimerais ça que la LNH se fasse pousser une paire de bases, là, puis que quand il annonce une décision, une vidéo explique pourquoi il a donné cette suspension-là. Pour que ça soit clair pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de spéculation. Tu sais quoi de prendre, genre 5 minutes, faire une petite vidéo avec un petit tableau, là, tout le geste, un petit bon, OK, c'est à cause de ça, là, le coup comme ça, ben, on a donné un match parce qu'on juge que blablabla. Ça serait noir sur blanc. On ne devrait pas être d'accord, mais au moins, on aurait l'explication. Parce que c'est ce bout-là qui nous manque. On dit tout le temps, bon, lui, suspendu 4 games. Mais pourquoi 4 games, lui, mais lui, 3? Peux-tu expliquer un peu c'est quoi ta logique? Bon, on ne l'a pas, ce bout-là. Fait qu'on spécule, puis on dit que c'est n'importe quoi. Puis ça serait cool, à un moment donné, qu'on explique. Je pense qu'à un moment donné, dans le passé, c'est...
C'est obligatoire.
Quand c'était Stéphane Quintal qui était là, je pense qu'il avait fait, à un moment donné, des trucs comme ça, qui expliquait c'était quoi la suspension et tout ça. Tu sais, comme je l'ai dit, on ne doit pas être d'accord, mais au moins, on a une explication, puis après ça, on se fera notre idée, voir si ça a du sens ou pas, mais au moins, on voit un peu c'est quoi la vision de la LNH vis-à-vis de ce geste-là. Mais là, c'est silence radio, on n'a plus rien, puis on spécule.
Oui, effectivement, puis ça reste des zones grises. Des zones grises, c'est jamais bon. Ouais. Hamas! All right, what the fuck de la semaine, on en a deux.
Oh!
Ouais. Un à caractère sexuel, je m'en excuse tout de suite.
Ah non.
Et non, c'est pas le scandale.
Comment ça te voit avec tes patins pas aiguisés en train de glisser puis
et l'autre c'est caractère hôpital, donc ça va être super le fun. Donc ceux qui suivent le X, j'ai retweeté ça évidemment avec soit une folie soit une aïe aïe. Donc, le premier, c'est le taux de chapeau de Matthews contre Buffalo. Tu vas me dire, what the fuck, pourquoi tu dis que c'est what the fuck, ils sont troisième de la saison. Et moi, c'est le fait que le juge, ben, en fait, le gars qui s'occupe d'enlever la glace sur la neige, la neige sur la glace, s'en vient avec une belle brassière triple D. Donc, le premier réflexe que j'ai dans ma tête, c'est « Oh, où est-ce que Drake est présentement dans l'assistance? » Donc, Drake était présentement là. Alors, les femmes ont commencé à lancer leur soutien-gorge à Drake sur la glace, mais ils ont oublié que c'est Aston Matthews qui scorait et non Drake. Donc, ça, c'est mon premier « What the fuck » de la semaine. Quand t'es rendu, tu lances ta brassière à sa glace. On sent qu'il manque de volume présentement à Toronto. Et mon deuxième, c'est un attaquant un ancien attaquant de mon équipe, Gustav Nyquist. Pendant le match cette semaine Seattle qui pendant l'intermission ramassait ses dents par terre. Donc Gustav Nyquist qui a reçu complètement la rondelle sur la gueule et personne l'aide, seulement un de ses joueurs qui tient son bâton à côté et lui qui fouille à terre pour chercher ses dents. Donc what the fuck les gars. Aidez-les, ça a moi de maudit bon sens. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'était mes deux moments de fuck de la semaine.
Il y a Eric là, qui nous relance sur Anderson. Il dit, bon, en début de saison, tout le monde chialait sur la main de Gallagher. Maintenant, on a trouvé un autre sous douleur en Anderson. Au moins, c'est un peu de partie. Il y a des chances de marquer. Pas capable de finir, mais en même temps, je trouve pas qu'il y a tant de chances de marquer que ça. Moi, je pense plus que... au contraire, son trio en crée moins. C'est peut-être un des pires trios au niveau offensif. Peu importe le trio, OK? Au début de saison, quand il était avec Caulfield et Suzuki, on ne les voyait plus, ces deux-là. Puis tu sais, c'est plate parce que j'aimerais aimer Anderson. Puis tu sais, ça remonte pas. C'est pas juste cette saison, ça remonte dans les autres années précédentes. C'est le même style. C'est pas un bon fabricant de jeu. C'est pas un tant bon scoreur. Il patine en ligne droite, mais il crée rien. Puis c'est pas juste cette année, c'est l'année passée aussi. Puis il frappe pas tant que ça non plus. Mais ça, à sa défense, c'est sûr que quand tu fais opérer aux épaules, tu essaies de te préserver un peu plus. Je peux comprendre, mais tu sais, tout le terme qu'on avait de power forward pour Anderson, ben c'est plus ça qu'on fait.
Non, puis j'ai aimé l'article. Puis j'aime le point que tu parles parce que oui, on a blâmé sur Gallagher et eux, on pense que c'est. Finalement, c'est la vitesse et les blessures, on va se le dire, là, mais on s'entend que Gallagher, c'est un gars qui travaille fort à tous les matchs. Et des fois, on sent qu'Anderson n'est pas là des fois. Puis si tu regardes l'article de Billy Bertrand sur RDS, ça en dit quand même long. Oui, c'est des statistiques avancées, oui, c'est des probabilités, puis on sait comment ça fonctionne. Mais depuis quelques temps, on sent un Josh Anderson peut-être frustré de la situation à Montréal, semble pas vouloir trouver le fond du filet. Puis là, on sent qu'il y a des jeunes moins talentueux, selon lui, qui poussent vers en arrière, qui fonctionnent. Et là, ça l'aide pas. Mais je comprends qu'il fallait pas un souffle-douleur. Puis moi, je le prends pas comme un souffle-douleur. Je pense pas qu'on fait ça juste pour faire exprès. Mais en même temps, faut-tu mettre les points CI et les bases CT. Là, t'as pas vraiment le choix de toute façon. Et présentement, mais il aide pas. Il fait pas aider son équipe, puis c'est pas le genre de rendement que les Canadiens ont besoin s'ils veulent continuer à bien aller comme ça. Et malheureusement, il faut pas tout le temps un coupable, mais s'il serait à 100%, mis en échec, s'il se battait à tout le temps, mais s'il serait opportun, s'il serait devant le filet, dérangerait les gardiens de but tout le temps, puis tu vois que ça fait... Tu sais, à un moment donné, ça colle pas, là, la palette, elle colle pas à ta palette, là. Ça peut arriver, mais là, c'est rien. On n'a pas de lanceau au filet, lance 40 pieds à côté du net, va up and down, va au banc après, semble frustré, tu sais, c'est pas le même que tu fonctionnes. Brendan Gallagher, c'est une de mes questions qu'on va poser dans pas long, mais Brendan Gallagher, c'est le genre de joueur qui a jamais arrêté. C'est pas un joueur talentueux, c'est un marqueur de 30 buts, mais c'est un gars qui a toujours grindé ses filets, c'est un gars qui a toujours grindé ses présences. Puis il y avait une image là, deux semaines, le Canadien a perdu en fin de match, puis je me souviens pas de quelle équipe ont fait un but en filet désert, puis tu voyais une image en arrière, puis la seule personne qui avait la tête dans des culottes qui patinait comme un débile léger pour aller chercher la rondelle, puis le joueur, c'était Brendan Gallagher qui devait être devant le filet. Les quatre autres joueurs, ils regardaient le joueur aller, puis ils s'en foutaient. T'sais. C'est ça, Brendan Gallagher. Puis c'est pour ça que son contrat fait mal, mais en même temps, on est capable au Québec de pas trop s'en faire avec ça parce que Colin est là à tous les games, puis il a tellement donné pour le Canadien. Puis cette année, je suis content, ça va quand même bien. Peut-être pas des records, là, mais je suis content de voir que ça va quand même bien du côté de Brendan Gallagher.
Ah, puis je pense que c'est contre Buffalo qui avait inscrit son premier but, qui avait quasiment la tête rendue dans le fond du filet. Ben, quand tu dis qu'il grind ses buts, il grind parce qu'il était rendu la tête première quasiment dans le but, parce qu'il travaille ses filets. Puis tu sais, il n'y a plus le tir qu'il avait. Il a déjà eu un tir, sans dire que c'est un lancé à la cour confirme, mais il était capable de battre les gardiens à distance avec ses tirs. Maintenant, c'est moins le cas. Maintenant, c'est plus justement des buts qui vont aller ramasser autour du filet, des retours de lancer, des déviations. Mais il va encore, puis il va à la guerre à chaque fois. Puis, tu sais, Gallagher, l'affaire, c'est que je comprends les gens qui disent. Puis, honnêtement, je trouve pas qu'il ralentit tant que ça. Oui, il est moins rapide, mais je me souviens plus c'est dans quel match, mais il avait battu un dégagement refusé. Je veux dire, pour que tu battes un défenseur de vitesse pour annuler un dégagement refusé, il faut qu'il te reste un peu de vitesse dans les jambes, je ne peux pas croire. C'est sûr que c'est plus le Gallagher de ses bonnes premières années, mais tu sais, il ne nuit pas. Il travaille, il grind, il dérange un petit peu moins l'adversaire, mais tu sais, il va quand même grinder. Mais Anderson, tu le vois juste pas dans les matchs.
Non.
Tu le vois juste pas. Il frappe pas vraiment. Des fois, il va jeter les gants peut-être 2-3 fois par année pour défendre les coéquipiers une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Tu sais, c'est pas ça que j'y demande non plus. Tu sais, j'y demande pas qu'il drop à chaque match. C'est pas ça le point. Mais Anderson, le profil de joueur qui est, il doit finir avec 3, 4, 5, 6 mises en échec par game. Il doit brasser l'adversaire. On le voit pas, ça non plus. Puis encore là, je le répète, puis on en discutait en dépensant, et le Tiff était là aussi dans le podcast. On disait, Anderson, on le voit pas, il sert pas à grand-chose tant que ça. Puis toi, Steph, dans le temps, tu l'aimais encore un peu. Là. Mais
moi, j'ai toujours trouvé que c'était un profil de joueur qui devait être bon dans l'Ligue nationale. Là. Je veux dire, je peux pas croire que...
Il y a tout. C'est ça qui est frustrant avec Anderson. C'est que tu vois patiner, il y a de la vitesse. Tu vois, tu sais, un bon gabarit, tu sais qu'il peut frapper, mais il y a des games que tu vois, les games, tu vas le voir, là, ça va être un nouvel homme, là, carrément, là, il va plaquer tout le monde, il va se faire un game. Après ça, l'autre d'après, touche pas personne, pas de chance de marquer, pas de tir, pas rien. Tu sais, Gallagher, tu sais à quoi t'attendre à chaque match, même s'il marquera pas, il va se sacrer la face devant le filet, il va manger la rondelle en pleine face s'il faut pour la faire dévier dans le but. C'est ça qu'il va faire. Il s'est pété la main deux fois à cause de ça parce qu'il s'est mis devant le filet pour. Fait que tu sais qu'il va te donner ça. Il ne marquera plus, probablement plus jamais 30 buts dans la Ligue nationale. Parce que justement, il n'est plus capable de battre les gardiens avec ses tirs. Il est pogné, fini, mais c'est pas t'en chercher 10-15 en grindant autour du filet. Le Canadien n'a pas une tonne de joueurs qui font ça. De toute façon, aller devant le filet et manger 3-4 coups de Sherwood pour. Aller chercher les retours. Mais tu sais, lui, on le sait qu'il est capable de le faire. Puis, regarde, on le voit depuis le début de la saison, ses buts sont vraiment pas beaux.
Non.
Mais il est à la bonne place au bon moment. Puis, jusqu'à maintenant, il connaît un bon début de saison.
Là. Ouais, il connaît un bon début de saison. Puis, comme tu dis, j'ai toujours espoir parce que, comme dirait mon père, là, si j'avais eu la shape de Josh Anderson, je serais peut-être été national. Mais c'est ça qui est le problème avec Josh Anderson.
Écoute, Steph, tu voulais qu'on parle un peu de Gallagher, donc j'imagine que tu les avais dans tes questions sur réception.
Écoute, ma question, puis tu as un peu répondu à ce que je dis, on va partir avec ça. Est-ce que Brendan Gallagher a encore une saison de 30 buts dans le corps? Et j'aurais peut-être mieux dû mettre 25 buts au lieu de 30. Je pense que 30, c'est un peu exagéré. Mais tu penses que Gallagher, puis je te dis ça de même parce que je pense que présentement, elle joue avec un bon trio. Ça met dans les bonnes grâces présentement. Tu sais, 4 buts quand même en 11 rencontres. Si on fait x8, x7, là, mettons plus x7, ça nous amène à 21, 28 buts. Donc, est-ce qu'on est proche du 30 buts, du 25-30 buts du côté de Gallagher ou on va rester autour de 20 à 15 à 20?
Moi, je pense que 15 à 20, c'est un objectif qui est plus réaliste. Là, surtout que plus ça va avancer. Ben là, tu parles pour cette année, mais tu parles, mettons, éventuellement, les prochaines années, s'il y a une saison de 30 buts qui va revenir.
Ouais, ça peut être cette année comme les prochaines saisons. Moi, je pense que plus qu'il vieillit, moins qu'il y a de chance. Non, sans mettre en forme cette année, là, sans mettre dans une bonne grâce, sans dire qu'il n'y a pas de blessure, sans mettre. Il patine quand même bien. C'est pas un marchand de vitesse, mais on voit qu'il est quand même assez productif au niveau du patin. Fait, c'est sûr qu'on n'a pas pour 10 ans avec Brendan Gallagher, mais au moins. Quatrième meilleur marqueur du Canadien présentement avec Mike Matheson. Je pense que ça fait pas mal avec son contrat, même si c'est un gros contrat. Mais dans les prochaines années, est-ce qu'on pense revoir un Gallagher à 25-30 buts?
Moi, ma réponse, c'est non, parce que je pense que cette année, c'est peut-être le plus proche qu'on va avoir du Gallagher dans le passé, parce que vu que les années vont avancer, comme tu as dit, oui, Gallagher va vieillir, mais il y a aussi des joueurs qui vont pousser, puis Gallagher, maintenant, il va perdre son poste, puis il va se ramasser en finale, puis il va peut-être jouer plus sur une 3, sur une 4. Peut-être moins d'avantages numériques aussi, éventuellement. Fait que moi, je pense que 15-20 buts par saison, c'est réaliste là, comme objectif là, dans son cas à court terme. Par la suite, c'est peut-être plus 10 à 15 buts, mais ça va être plus son côté grinder qui va aider le Canadien. Mais je pense pas qu'on va avoir une saison de 30 buts de Gallagher là, jusqu'à la fin de sa carrière. J'espère pas me tromper, mais je pense pas que ça va être le cas.
Ouais. Good. Deuxième question. Excuse à mes enfants, ils me regardent comme deux pingouins. Là. Oui. Jesus Christ. Excusez-moi les boys, ça, c'était un live. Hein? On est vraiment en live pour tout le monde.
D'accord,
hein? Blooper.
Yes.
Je vais être comme une tamate. Là, Marianne, il va se coucher. Mais oui, tu vas te coucher, big. Bon, excusez. Sacrifice. On a parlé la semaine passée, puis on a parlé aussi en privé. Là, on regarde beaucoup, puis présentement, le meilleur gardien de la Ligue nationale, c'est Semyon, pas Varlamov, mais Sorokin. Donc, selon toi, là, si, exemple, les Islanders pètent une bulle, là, puis ils disent « OK, regarde, on est prêt à l'échanger, puis le Canadien serait intéressé. » Pour combien et pendant combien de temps?
Combien de temps, je comprends pas.
Comment tu serais prêt à y offrir en argent et pour combien de temps?
Il a déjà signé son contrat à long terme, Sorokin.
Non, mais mettons, là, c'est une question hypothétiquement. Ça n'arrivera pas, les Islanders n'échangeront pas. Là. Si jamais le gars pète une bulle, là, OK? Puis mettons, là, il voudrait l'échanger. Mais tu serais prêt à payer combien à Montréal pour un goaler numéro 1? C'est ça que ça veut dire plus ma question. Là.
Mais attends, je fais mon têteux, là, mais ta question, c'est je serais prêt à payer combien pour la transaction ou pour un contrat?
Pour un contrat, ben là, en fait, moi, j'ai parlé un goaler de la type à Sorokin, là. OK?
Non, mais tu veux dire, OK, je vais reformuler ma question. Est-ce que tu me dirais, mettons, c'est compliqué ta question, Steph. Non, mais c'est parce que c'est. Au niveau de la transaction, avec les Islanders, mettons, je serais prêt à donner 3 choix de première ronde puis 8 espoirs. Ou tu penses, si, mettons, il faut que je donne un nouveau contrat.
Oui, nouveau contrat. Tu es prêt à signer un contrat, il t'offre un contrat, tu es prêt à avoir qu'est-ce que tu donnes à un gardien de premier plan présentement avec National si tu es à Montréal présentement.
T'as un peu, je vais juste ressortir son contrat parce que je pense que qu'est-ce que signer, c'est pas mal ce que je serais prêt à donner. Là. C'est 8 250 000 pour un gardien aujourd'hui. Ça va être rendu une aubaine là, parce que là, on a des Bobrovski qui gagnent au-dessus de 10 millions. Vasilevski va s'en aller là éventuellement aussi. Puis sur Rokin, je pense qu'à 8 250 000, là, je me frotte les mains parce qu'un gardien de ce calibre-là, pour moins de 10 millions, je pourrais le prendre. Là, il ne gagnera pas 6 millions sur Rokin à long terme, là, c'est sûr. Là. Fait que 8 250 000, je pense que c'est raisonnable comme prix là, à long terme.
OK.
Puis ma sous-question. Pour ça nécessairement, par contre.
Ma sous-question, c'est sûr que les Browns l'année prochaine vont avoir un choix à faire entre Swayman et Ullmark. Est-ce que tu serais prêt à aller chercher un des deux?
Je pense que les Browns, je me demande à quel point que la bonne défensive a un impact sur les chiffres actuellement des gardiens de but. Dans, par exemple, Ullmark n'a jamais été un super bon gardien parce qu'il jouait avec les Sabres de Buffalo. Là, il se retrouve avec les Browns. Tout à coup, par magie, c'est un Vezina. Fait que tu sais, à quel point que la défensive est pour beaucoup. Puis, tu sais, je vais faire le parallèle avec les Coyotes de l'Arizona. T'sais, on a chié beaucoup sur Mike Smith dans les dernières années. Mais quand il jouait avec les Coyotes de l'Arizona, avec le système de jeu plus défensif, c'est un très, très bon gardien, Mike Smith. Là.
Mm-hmm.
Brice Galland est passé par là aussi. C'est un très bon gardien aussi. Fait que tu sais, je ne sais pas à quel point que je serais prêt à aller en chercher un des deux, mais en même temps, c'est sûr que présentement, et Swayman et Ullmark sont meilleurs que ce que les Canadiens ont actuellement et présentement dans leur formation et dans leur relève. Fait que on s'améliorait au niveau gardien.
Tu ne crois pas en Fowler?
Ben, c'est encore trop tôt. T'sais. Je veux dire, dans le passé, on croyait beaucoup en Kaelin Primo, puis on voit ce que ça fait. Puis là, je sais que les gens vont dire ouais, le développement, c'était pas vraiment fameux non plus. Ils ont raison aussi. Mais n'empêche qu'on est passé de « Ah, c'est le prochain, c'est lui qui va prendre la place de Carey Price » à « Ben là, on ne sait plus quoi faire avec, c'est notre troisième gardien et on ne le fait pas gros
là
à moitié. »
Moi, je pense qu'on l'a brûlé, ce joueur-là. Là.
Oui, c'est ça que je te dis. Mais tu sais, même je te ferais le parallèle aussi avec Jakub Dobus qui a dominé la NCAA puis là, il vient de frapper un mur du côté du Rocket de Laval. Ça va pas si bien que ça. Il y a quand même un bon match vendredi, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un apprentissage à faire. Mais tu sais, je veux dire, Dustin Wolf avec les Flames,
ouais,
à son âge, était pratiquement déjà dominant dans la AHL. T'sais, lui, on sait que c'est un real deal. Là.
Ouais. Mais, comme Wall avec Toronto, je pense.
Exact. Donc, tu sais, du côté du Canadien, on n'a pas ce gardien-là. Même si on peut dire qu'on a Fowler, qu'on a pêché un Russe aussi qui va bien en Russie actuellement. Ouais. On a un petit gardien des Remparts aussi qui ne va pas si mal. Mais tu sais, il n'y a rien de sûr là-dedans. T'sais, c'est les deux premiers qui disaient que le repêchage, on va beau de repêcher, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des bons joueurs.
Exact.
C'est mon point. Tandis que Ullmark et Swayman, ils ont déjà l'expérience NHL derrière la cravate. Fait que selon moi, à court terme, ils sont meilleurs que tout ce monde-là. Mais ouais, maintenant, est-ce que je serais prêt à aller vraiment chercher un des deux? Je vais te répondre à la question plate, la réponse plate. Ça dépend toujours, c'est quoi les autres options?
Non, c'est sûr, évidemment. All right. Après notre fameux Pierre Dorion, national. Qui sera le prochain DG congédié?
Très bonne question, mais moi j'ai l'impression que du côté de Columbus, Kekalainen, sans dire que c'est le prochain qui va être congédié, je pense que du côté de Kekalainen, ça va commencer à chauffer un petit peu plus. Je veux dire, ça fait plusieurs années qu'on est en reconstruction. On a eu un choix de top 3 en Dubois, on a dû l'échanger. Ensuite, on a emmené Johnny Gaudreau. On savait pertinemment que Gaudreau n'allait jamais produire autant qu'est-ce qu'il a fait avec les Flames. Columbus, qui est beaucoup moins bon offensivement que Calgary. Et Gaudreau, ça devient un contrat de plus en plus lourd. Laine, ça ne fonctionne pas non plus. C'est pas tant la faute de Kekalainen si Laine se blesse tout le temps. Mais tu sais, quand même, on essaie beaucoup de choses du côté de Columbus, mais on ne voit pas cette équipe tant que ça. Là, on repêche un autre choix là, qui est au choix en Cam Johnson. On ne le fait pas jouer à moitié. Même qu'on l'a envoyé. Oh, parenthèse, justement. Ça aurait pu être compliqué aussi avec le Canadien. What's up avec Slavkovski? Pourquoi on ne l'avait pas à Laval? Columbus a envoyé Johnson du côté de la Ligue américaine. Il y a une autre équipe, Coronado, du côté de Calgary. On n'a pas hésité à l'envoyer dans la Ligue américaine parce que ça fonctionne un petit peu moins dans la LNH. C'est juste moi et Montréal qui ne savent pas que ça peut se faire, cette chose-là. Fin de la parenthèse. Mais quand même, c'est quand même le fun de voir que des équipes n'hésitent pas à envoyer leur top prospect dans la AHL quand ils voient que ça fonctionne un peu moins. Mais pour revenir pour Columbus, je pense que Lennon, là, c'est, son temps va commencer à être compté là, éventuellement si on n'a pas plus de progression ça, du côté des Jackets.
Oui, je comprends. Puis de ce côté-là, je suis un petit peu d'accord avec toi. Moi, je pense que deux personnes qu'on parle pas assez du côté de la Ligue nationale, et c'est Bill Guérin avec le Wild. Si le Wild se plante cette année,
ouais,
on va voir ce qu'ils vont faire, ouais. Je sais pas, moi je pense que j'entends des choses parler de côté à droite et à gauche. Ça semble pas être dans les bonnes grâces avec le Wild. Et honnêtement, Ken Olin, mon ancien directeur général des 20 dernières années avec les Red Wings, je pense que Sleigh Haller, ça pète la gueule cette année.
Oui, Ken Olin, je pense que ça peut être un très. Je pense que Guérin, quand même, bien installé au Minnesota, ça commence à. Ces jeunes joueurs commencent à pousser. Ça devient intéressant à Minnesota. Mais...
C'est une division difficile, mais je pense qu'il va falloir. Oui, on est quand même proche des séries, mais les Blackhawks nous chauffent quand même.
Mais je pense que du côté des Oilers, ça fait plusieurs années là, qu'on essaie d'être compétitif, qu'on essaie d'amener cette équipe-là au prochain niveau, puis ça va tellement pas bien dernièrement. Encore perdu contre Nashville hier, on a perdu contre Dallas aussi, je pense que c'est vendredi ou jeudi. On n'est pas capable là, de réussir à passer à la prochaine étape. Puis à un moment donné, il va falloir que quelqu'un paye. Puis je pense que Haaland, ça va pas une nouvelle voie du côté d'Edmonton.
Ouais, puis je pense que c'est le contrat de notre cher contrat de Daniel Nurse à 9,250 que Ken Holland a fait l'année passée. Il va commencer à faire mal. Donc, oui, moi je pense que Ken Holland est sur le buffet, mais finalement, le premier, comme tu le dis, c'est Kekalainen. Je pense que du côté des Jackets, il va falloir se réveiller si on veut être des séries rapidement. Dernière question. Après le chant des Fire DJ à Ottawa,
ouf,
tu donnes combien de temps à DJ Smith pour être en poste? Tu peux y aller en jour, en semaine, et pas en mois, parce que ça n'arrivera pas.
Ben écoute, j'ai pas fait d'accord avec toi, là. C'est sûr que si Ottawa se replace pas, il finit pas la saison, je dois croire, là. Puis ça, encore une fois, ça remonte pas tant de cette année. Là, l'année passée aussi, c'était pas tant fameux DJ Smith. Il y avait des critiques pas mal à son endroit, mais écoute, c'est dur à dire parce que Ottawa est pas extrêmement mauvais, mais c'est sûr que, puis il faut pas oublier qu'on a beaucoup de blessés également. Là. Chabot est blessé, Brandstrom est blessé, Zub aussi est blessé, je me trompe pas.
Ouais.
Fait que tu sais, à un moment donné, c'est pas juste que l'équipe joue mal, c'est qu'on manque d'effectifs aussi. Mais c'est sûr que là, on a agi avec le DG. J'ai l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de patience aussi pour Smith. Fait que je vais y aller. Ah, tu peux vraiment pas me donner l'option du mois.
Ouais, ça va mettre en mois. Je n'ai jamais dit non à rien.
Je pense que si d'ici au fight, ça ne se replace pas, il ne passera pas les fights, DJ Smith.
Ah oui, c'est pas pire. C'est bon.
Fait que ça conclut le podcast pour ce soir.
Moi, j'ai pas d'autres questions. Je pense que ça coûte ce qu'on a. Pas eu des gros combats cette semaine au niveau de mes combats de la semaine. Là. J'aurais pu mettre O'Brien contre le vieux Foligno. Mais j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Ça a été quand même une petite semaine, je dirais plus qu'un nuage négatif à tout ce qui s'est passé à Ottawa, puis des affaires.
On n'a pas parlé beaucoup de bonnes nouvelles dans ce podcast.
Ça a été très, très ordinaire. Mais écoute, le Canadien... écoute, la bonne nouvelle, c'est que je m'en vais dans le sud dimanche prochain. Fait que regarde,
c'est un bon voyage, puis on va se retrouver dans deux semaines. Je vais essayer de pallier ta perte. Ça va être difficile, mais je vais essayer de pallier ta perte là, pour ce podcast-là. Sinon, si ça ne fait pas, je vais juste faire un Q&A avec les gens dans le chat. Là. On va juste parler du sujet qu'ils vont te poser comme question.
Très bonne nouvelle.
Sinon, je vais travailler pour essayer de trouver quelqu'un là, pour te remplacer pour ce voyage-là. Espérant que tu aies beaucoup de plaisir là-bas. Profite du soleil en masse, puis reviens très, 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 très bronzé dans deux semaines.
Oui, puis on en parlera si dans deux semaines, on est encore du même avis pour Slaf dans la AHL. Pis je pense que c'est un sujet qui est trop chaud présentement, puis d'en avoir parlé, je pense que c'est trop de bonheur, mais je pense qu'en même temps que le Canadien a peur de ça, d'envoyer Slakowski dans les mineurs. Pourquoi? Parce que on n'est pas bon avec le développement à ce côté de Montréal, puis je pense qu'on le sait malheureusement. Et là, présentement, le Rocket qui revient un petit peu dans la course au niveau des victoires, mais est-ce que Slav sera vraiment un point de changement dans la Ligue américaine? C'est là que je suis pas sûr.
Ben, de toute façon, Laval, le problème, c'est pas l'attaque, c'est la défensive et les gardiens. Fait même si Slav va là-bas, tu sais, je veux dire, encore hier, ben là, je dis l'attaque, puis ils n'ont pas marqué de but hier, ils ont perdu 5-0. Mais tu sais, il y a beaucoup de matchs qui ont été hyper offensifs, surtout en début de saison, parce qu'on avait les éléments pour marquer des buts, mais les goalers, je dirais pas les goalers, parce que la défensive est très jeune, ben, était très mauvaise aussi devant lui. Là, Logan Mayhew, c'est difficile par moment. Il fait des beaux flashs, mais défensivement, c'est. Puis je comprends encore plus pourquoi que plusieurs disaient qu'il était pas prêt à jouer dans la LNH. Il y en a plusieurs qui le voyaient débuter dans la LNH cette année, mais à le voir aller à Laval, une maudite chance qu'il est à Laval présentement parce qu'il ne serait pas tant utile dans la NHL actuellement. Là.
Non, effectivement, c'est un bon point là-dessus.
Ben écoute, Steph, je te le dire à nouveau. Bon voyage en fin de semaine prochaine.
Merci, boys.
Et merci encore une fois à tous ceux qui nous ont suivis ce soir sur le podcast ou ceux qui nous écoutent en différé. Encore une fois, si vous écoutez vos podcasts sur Apple Podcasts, laissez-nous un beau petit review positif pour qu'on puisse se faire voir davantage. Même chose pour Spotify. Allez nous laisser un petit review positif. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, allez le faire également. Et je pense que c'est pas mal ça. Je pense que j'ai pas mal tout dit, là, ma petite salade là, de vendeur de chars usagés. Bonne semaine à tout le monde. On se retrouve le dimanche prochain pour un autre podcast. Puis bon voyage, mon cher Steph.
Salut tout le monde, t'en sors aux autres. J'ai hâte de vous reparler.